Bienvenue à tous et à toutes. Alors, je remercie Céline Lassalle et Lucie Delalain de l'association Kayatim Événements qui m'ont donc invité pour cette journée de la nature. Donc, c'est une grande première pour moi aussi car c'est la première fois que je vais traiter de ce sujet. Je crois même que c'est la première fois tout court que je vais faire une grande conférence, si on peut dire, sur la nature. Donc là, c'est une grande première. Donc, je ne sais pas ce que je vais dire, mais bon, j'ai pris quelques notes quand même, donc je devrais arriver à me débrouiller. A priori, ce que j'aimerais, c'était vous emmener un peu dans mon univers de la nature, hein, ce que ça représente pour moi, qu'est-ce que c'est, comment je m'y prends, etc. Et puis pourquoi j'ai écrit ce livre « Sauvons la nature » au titre qui interpelle, qui était un appel aussi. Donc en fait, pour moi, tout cela a commencé il y a environ 25 ans. Jusqu'à cette période-là, je m'étais jamais vraiment intéressé à la nature. Comme tout le monde, on va dire, pour me promener dedans, respirer tranquille et tout, pique-niquer et tout, mais rien de spécial. Et je m'intéressais plutôt, moi, à l'aspect vertical, c'est-à-dire au monde spirituel. Et j'avais créé toutes sortes de méthodes pour accéder au monde spirituel, travailler avec lui, et que j'avais écrit quelques livres déjà et tout et tout. Et puis un jour, on m'a proposé, encouragé, conseillé de m'intéresser à la nature et de travailler aussi avec la nature. Parce que c'est pas du tout la même chose. Accéder là-haut, au monde spirituel, et travailler avec des entités spirituelles de là-haut, et puis travailler horizontalement, je dirais, avec la nature et les entités qui vivent dedans. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est pas les mêmes types de méditation ou de formes de clairvoyance, etc. C'est très différent. Bon, comme j'aime bien les défis, je l'ai relevé, et je m'y suis intéressé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé d'être une sorte d'intermédiaire, parce que de très 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 hautes entités avaient décidé de faire descendre une énergie très puissante dans la nature pour la transformer. Donc j'ai dit ok. Et donc ça s'est passé en 1997, au printemps. Et à partir de là, depuis, une énergie très puissante descend dans la nature, donc une énergie qui est invisible, qu'on ne peut voir que par clairvoyance. Elle descend dans la nature et elle transforme la nature. Donc pour l'instant, cette transformation est invisible aux yeux. On peut pas la voir comme ça, on peut la voir que par clairvoyance, mais elle existe. Elle deviendra visible, je pense, à partir des années 30, donc d'ici une dizaine d'années. Sauf qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup trop tard. Si on veut agir avec la nature, si on veut faire quelque chose pour l'aider, ce sera trop tard. C'est donc maintenant qu'il faut le faire. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. La première raison pour laquelle j'ai écrit « Sauvons la nature », c'est qu'il faut le faire maintenant. Donc si j'ai mis « Sauvons la nature », c'est pas parce qu'il faut sauver la nature, elle n'a pas besoin de nous pour se sauver. Elle peut se sauver toute seule, sans aucun problème. Elle est des milliards de fois plus puissante que les plus puissantes des êtres humains. Donc elle n'a pas besoin de nous. Mais j'ai mis « Sauvons la nature » pour interpeller les gens, pour se dire « Ah bon, l'être humain peut faire quelque chose pour la nature ?» Oui, on peut faire autre chose que la détruire déjà pour commencer. Et plutôt que de se sentir super coupable dans son coin parce qu'on détruit la nature, hein, parce que notre mode de vie détruit la nature, faut le voir en face une bonne fois. Mais au lieu de rester coupable dans son coin et se dire « pauvre de moi, je suis très vilain, je suis très vilaine, je suis très méchant, je suis très méchante », il y a des solutions. Et on peut justement se déculpabiliser assez facilement en agissant pour la nature, en faisant des choses avec elle, pour elle, etc. Donc c'est un peu ça l'objet de ce livre, et donc devenir des ouvriers de Dame Natura. Donc c'est ouvrier au sens noble, c'est-à-dire celui qui œuvre pour le bien, c'est ça que ça veut dire pour moi, mais dans un domaine particulier qui est celui de la nature, puisque Dame Natura, c'est le nom de la reine de la nature, qu'on peut appeler aussi déesse Natura, ou qu'on peut appeler mère nature, bref, la grande entité spirituelle qui s'occupe de la nature, de toute la nature. Allez, je vous donne 10 secondes pour imaginer la planète et toute la nature qui est dessus. Hein, les forêts, les fleurs, les montagnes, du ruisseau jusqu'au grand fleuve, les mers, les océans. Toute cette nature qui est sur la planète, eh bien, il y a un être qui s'en occupe, c'est Dame Natura. Et bien sûr, elle s'en occupe pas toute seule, c'est elle qui régit tout, qui dirige tout. Mais elle a avec elle des milliards d'êtres qui travaillent pour elle, pour la nature. Des milliards d'êtres de toutes sortes de niveaux. De tout petits êtres de rien du tout, jusqu'à des êtres puissants, des êtres quasiment aussi puissants que des anges. Et il y a aussi certaines classes d'anges et d'archanges qui s'en occupent aussi. Mais ils sont tous chapeautés par la reine de la nature, Dame Natura. Donc pour moi, ça a commencé comme ça. Et donc j'ai participé à quelque chose en 1997 pour qu'une énergie descende dans la nature. Et puis quelques années après, j'ai lu un livre comme ça, par hasard, Mais comme le hasard n'existe pas, c'était donc pas par hasard. Un livre d'un auteur qui s'appelle Marko Pogačnik, qui est un auteur slovène, un clairvoyant, et qui est passionné par la nature et qui passe sa vie à aller partout dans la nature, à faire toutes sortes de recherches, d'expériences, de guérisons, etc., etc. Et donc, tout à coup, dans un de ses livres, je trouve la mention que il avait remarqué, donc par clairvoyance bien sûr, que depuis 1997, il y avait une nouvelle énergie qui descendait dans la nature pour la transformer. Je lui dis, ah, tiens, ça c'est un signe, hein, ce qu'on appelle un signe, c'est-à-dire, bah oui, ce que j'ai fait existe bel et bien, hein, c'est pas que j'en doutais, mais bon, là, j'ai la preuve que ça existe, quoi, et qu'il n'y a pas que moi qui l'ai vu, il y en a d'autres. Donc voilà comment tout cela a commencé pour moi. J'aurais pu bien sûr chercher des gens qui faisaient d'autres choses à cette époque-là, parce que Marko Pogačnik, je l'ai découvert 15 ans après. Mais au début, donc, j'aurais pu chercher, par exemple, du côté du chamanisme, parce que pour beaucoup de gens, les chamans sont les grandes stars de la nature. Mais non, ça m'est pas venu à l'idée. C'est beaucoup plus tard que j'ai découvert ça aussi. Et j'ai été très étonné de voir que la plupart des chamans, pour entrer dans le monde invisible de la nature, ils se servaient de drogues, hein, de plantes hallucinogènes, d'ayahuasca et tout ça. Et j'ai été très étonné parce que c'est plus nécessaire. C'était nécessaire pour ceux qui le voulaient, c'était pas obligé, hein, mais ceux qui le voulaient pouvaient en utiliser entre le 15e et le 19e siècle. Mais depuis le 20e siècle, ce n'est plus nécessaire, et encore moins maintenant. Et comme je l'ai démontré dans mes livres, enfin en tout cas dans celui-là, mais aussi dans mon précédent livre sur la nature, qui s'appelle Natura ou les secrets du livre de la nature, j'ai mis toutes sortes d'exercices, toutes sortes de méditations, qui permettent d'accéder à la nature invisible, sans avoir besoin de drogue. Parce que si on avait été obligé de prendre des drogues pour accéder à la nature, je serais pas là en train de vous parler de la nature. Non, mais ça, c'est pas mon truc. Moi, c'est... Allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Voilà, non, les drogues, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en a pas besoin. Ça fait donc maintenant peut-être une vingtaine d'années que j'étudie vraiment la nature, que j'ai créé des stages, des méthodes, des livres et tout, et je l'ai enseigné à 200 ou 300 personnes, mes méthodes, qui ont toutes, plus ou moins, hein, selon leurs dons, leurs capacités, accédé à la nature, sans aucune drogue, uniquement avec mes méthodes de méditation. Donc tant mieux. Mais il est vrai que pendant plusieurs siècles, les portes à la fois pour accéder au monde invisible de la nature et la porte pour accéder au monde spirituel ont été fermées. Du 15e au 19e siècle, elles ont été fermées. On ne pouvait plus y accéder. Mais elles se sont réouvertes vers la fin du 19e siècle. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on peut accéder aussi bien au monde invisible de la nature qu'au monde invisible vers là-haut, vers le ciel. Et donc à son ange, etc. Alors, comment je m'y suis pris? Eh bien, pour moi, ma manière de fonctionner part beaucoup de la gratitude et de l'émerveillement et du respect. Donc que ce soit pour aller vers le haut ou pour que ce soit pour aller dans le monde de la nature, c'est toujours ça qui prime. Donc je me suis dit, quel est le problème et quelle est la solution? Le problème avec la nature, eh bien c'est simple, notre mode de vie l'a détruit. Et le pire des modes de vie, c'est le mode de vie américain, puisque des recherches ont démontré que le mode de vie américain est tellement pollueur que si tout le monde sur la planète vivait comme ça, eh bien la nature serait totalement détruite en un an. En un an seulement, on la détruirait, on la réduirait à zéro, si on vivait tous comme les Américains. Donc heureusement, c'est pas le cas, même si beaucoup de pays d'Europe, comme des andouilles, les imitent et les prennent pour des demi-dieux, ce qu'ils ne sont pas, puisque leur civilisation est en train de s'effondrer complètement. Donc il faut surtout pas les imiter, et donc il faut davantage essayer de trouver un mode de vie qui soit respectueux de la nature. Donc après, je ne vais pas vous faire un dessin, je vais vous faire un petit A, petit B, petit C. C'est assez facile à trouver par soi-même. Mais le but n'étant pas, bien sûr, de simplement faire des économies d'énergie ou d'utiliser moins d'eau, ce qui est un peu ridicule, c'est juste pour se donner bonne conscience. Mais c'est vraiment avoir un autre mode de vie. Un mode de vie héroïque, un mode de vie respectueux par rapport à la nature. Alors, sur quoi ça repose? Eh bien déjà, la première chose essentielle à comprendre, c'est que nous sommes partie intégrante de la nature. Là, ici, où nous sommes tous dans la nature. Vous allez vous dire, mais non, La nature, on la voit par la fenêtre, là, un petit peu, et encore, c'est pas grand-chose, puis bon, on sait qu'il y a la plage et la mer pas loin. C'est ça, la nature. Oui, ça, c'est la nature, c'est sûr. Mais nous sommes tous dans la nature. Pourquoi? Eh bien, parce que notre corps physique, c'est la nature qui nous l'a donné. Donc l'être humain, c'est avant tout un esprit qui vient de là-haut et qui descend sur Terre. Mais il descend dans quoi? Si la nature ne lui fournissait pas de corps physique, il serait invisible, il serait immatériel, et il ne pourrait pas entrer en relation avec la nature, il ne pourrait pas ni manger, ni boire, ni faire quoi que ce soit. Aucune activité ne serait possible. Et donc à quoi bon descendre sur Terre? La Terre a été fabriquée, si je puis dire, hein, c'est fabriqué made in God, hein, dans le but que l'être humain vive toutes sortes d'expériences sur Terre. Hein, parce que on peut vivre toutes sortes d'expériences sans être incarné sur une planète. On peut vivre des expériences en ayant des corps invisibles dans des mondes qui seraient invisibles, des mondes astrales ou mentales ou causales. Et il en existe plein dans notre système solaire et ailleurs. Et là, bien sûr, on voit personne. Et je dirais que les planètes qu'on voit sont simplement les corps physiques d'un monde qui est très très vaste. Et le corps physique, la partie dure de ce monde, eh ben, c'est la planète. Mais il n'y a pas d'être humain avec des corps physiques. La Terre, c'est complètement l'opposé. Il n'y a pas de monde autour de nous. On est tous rassemblés sur un caillou qui fonce à toute vitesse dans l'espace. C'est quoi qui est passé là? Oh, c'est la Terre. Elle suit le Soleil, donc c'est 29 km par seconde ou quelque chose comme ça. Donc c'est. Voilà. Et sauf qu'il y a une bande de gens qui s'accrochent comme ils peuvent dessus et qui parfois font un peu le drapeau et essaient de pas lâcher. Lâche pas! Accroche-toi! Voilà. Donc c'est la planète et on est dessus. Donc c'est le corps physique, oui, mais c'est aussi tout. Puisqu'on est dessus, on vit sur la Terre. Donc, à ma connaissance, il y a très 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 peu de monde où il y a des êtres qui vivent sur la planète. La plupart des mondes, les gens vivent dans des mondes très vastes qui sont pas en dur, qui sont pas en matière, qui sont au moins éthériques et souvent astral mental. Et ce genre de monde-là, il y en a des milliards. Donc, c'est sûr, on n'est pas seul dans l'univers. Même dans notre système solaire, on n'est pas seul. Mais seulement, il faut pas croire qu'on va voir arriver des extraterrestres dans des gros vaisseaux spatiaux comme dans Star Wars ou Star Trek, vous savez, les trucs qui pèsent des milliards de tonnes. Et voilà, non, ça n'existe pas. Moi, j'adore les films de science-fiction avec des gros comme ça. C'est vrai que c'est très sympa. Puis quand ils vont dans l'hyperespace et tout, c'est très sympa aussi. Ça va très vite. Mais ça n'existe pas. Parce que même nous, là, qui sommes incarnés sur cette planète en dur, avec des corps physiques denses, eh bien, on est tout proche de passer le cap avec notre évolution, notre technologie et tout, de passer un cap qui fait que là, on commence tout juste à utiliser des engins volants, justement, des petits comme ça. Et il y en a même des très très sophistiqués qu'on nous planque quelque part, je vous dirai pas où. Mais en fait, dans 3, 2, 1, 0, bah, on n'aura plus besoin de tout ça. Toute cette technologie, ça ira à la poubelle. Parce qu'on sera capable de voler, on sera capable de se téléporter. On n'aura pas besoin de ça. Et bon, ça, les plus évolués d'entre nous pourront commencer à faire ça à l'ère du Verseau, donc c'est demain. Et la majorité des gens pourront le faire à l'époque sophianique, donc c'est après-demain, c'est 4-5 000 ans, c'est un peu plus loin, mais on sera capable de le faire. Donc, à quoi bon avoir des engins pour se déplacer? Ça n'existera plus. Il n'y aura plus aucun engin pour se déplacer. On se déplacera dans notre petit corps, dans le vide de l'espace qui n'est pas vide. On a ce qu'on appelle de l'éther cosmique, hein, partout, de l'éther cosmique. Et un jour, eh bien, on saura respirer dans cet éther cosmique. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, si on nous emmène dans une fusée puis qu'on nous lâche là-haut, dans le vide intersidéral, c'est-à-dire dans l'éther cosmique, on meurt en 3 minutes à peu près. Donc pour l'instant, on peut pas. Mais un jour, on pourra. Et quand on pourra, on n'aura plus besoin ni d'avions, ni de vaisseaux spatiaux, ni quoi que ce soit, parce qu'on se déplacera avec notre corps. Et on pourra soit voler, pour le plaisir de voler, ou alors on se téléportera. Toc, toc. Et la téléportation, c'est des dizaines de milliers de fois supérieure à la vitesse de la lumière. C'est même pas mesurable tellement c'est rapide. C'est pour ça que ça fait toc, toc. Là, je suis là et je vais aller là-bas, j'y suis aussitôt. Donc la vitesse de la lumière, c'est rien du tout. Désolé Albert, Ce qu'il disait était valable pour son époque, mais bientôt ça sera plus valable. Donc tout ça pour dire que l'être humain va considérablement évoluer, mais pour l'instant il est encore très 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 attaché à cette planète de par son corps physique, parce que son corps physique doit évoluer bien sûr pour arriver à faire ce que je disais, qui est un peu comme le summum en fait. Mais pour l'instant, on est attaché à cette planète, et donc il faut en prendre soin. Il faut pas l'exploser avant qu'on arrive à ce que j'expliquais juste avant. Ça serait dommage, on passerait vraiment pour des ringards. Et j'ai pas envie que, au lieu d'être les gardiens de la galaxie, qu'on soit les ringards de la galaxie. Ça l'afficherait mal. Bon. Donc pour ça, il faut qu'on essaie de s'occuper de notre nature. Donc bien sûr, on l'a démoli parce qu'on s'est laissé prendre par le matérialisme, par le fonctionnement américain, etc., etc., technologique et tout. Mais on n'est pas obligé d'être idiot et on peut faire autrement. Parce qu'en fait, on est des gens très intelligents, beaucoup plus qu'on ne croit. Donc on peut faire autrement et on peut s'intéresser à la nature et entrer en communion avec elle. Comment doit-on s'y prendre ? Eh bien, au départ, c'est très simple et très difficile. Eh bien, je vais commencer par une anecdote humoristique. Il y a quelques années, j'avais créé un stage sur la nature. Et puis, avec les élèves qui étaient là, on se dit « Bon, cet après-midi, on va aller en pleine nature. Et puis, on va faire des exercices et tout ça. » Donc, hop, on y va. On entre dans la nature, en file indienne, sur un sentier et tout. On avait fait 17 ou 18 pas. Et tout à coup, les gens se mettent à chanter très fort. « Ta-la-la-la !» J'ai dit « Ouais, stop !» Respect, vous entrez dans la nature, silence. Là, ils se croyaient, je sais pas où, quoi. Enfin, comme d'hab, quoi, on fait la fête et tout, on s'éclate et tout. Je leur dis « Non, non, première chose, on entre dans la nature. Donc, en général, on fait des exercices, donc vous en avez qui sont là. Ils étaient dans mon précédent livre aussi, mais je les ai remis là. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'autre. Vous voyez comme je suis bon avec vous, quand même. » Donc ces exercices sont bien pour plein de choses, hein, comme c'est expliqué dans le livre, mais c'est aussi bien pour prendre contact avec la nature, c'est-à-dire on vient, je sais pas, de notre bureau, de notre travail, de ce qu'on faisait, peu importe, et on rentre dans la nature profonde, et à ce moment-là, on marque une pause, on se crée comme un sas, et donc on fait certains exercices pour se mettre en condition, pour se dire « Bon, bah là, je lâche mon travail, je lâche mes amis, je lâche ma famille, je lâche mes autres activités. » Et là, pendant, admettons, 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, je vais me consacrer à la nature. Et donc, je vais faire attention. Parce que la nature, bien sûr, avec mes yeux de chair, je vois rien. Mais en fait, je sais que c'est habité. Et qu'il y a plein d'êtres qui travaillent dans la nature, qui font plein de choses. Parce que tout ce qui se passe dans la nature, tous les phénomènes naturels, eh bien, ce sont des êtres qui s'en occupent et qui font qu'ils existent. En fait, on peut dire que partout où il y a de l'énergie, il y a des êtres. D'ailleurs, moi, la question que je me suis toujours posée par rapport aux scientifiques, c'est comment peuvent-ils croire que quand il y a de l'énergie quelque part, il n'y a pas d'être. L'énergie, elle vient d'où alors ? Il y a de l'énergie qui se crée quelque part. On peut, eux, ils peuvent, et ils ont des machines et tout ça pour vérifier. Ça fait tant de hertz, machin, truc et tout. Et ils vous disent. Oui, il y a de l'énergie, ils le confirment. Et comment peuvent-ils croire que ce ne sont pas des êtres qui font ça ? Alors c'est quoi qui crée toutes ces énergies qui sont partout sur la planète ? Eh bien, moi je peux vous garantir que ce sont des êtres. Alors le problème, c'est quand on ne sait pas que ce sont des êtres, eh bien, on utilise ces énergies-là comme on veut, pour toutes sortes de machines, toutes sortes d'objets, machins, d'ordinateurs et autres, et donc on en fait des esclaves de ces êtres. Parce que si on capture cette énergie et qu'on l'utilise comme on veut, nous, eh bien, on en fait des esclaves. Donc ça, c'est dur quand on se rend compte de ça. Donc, quand on arrive dans la nature, on fait des exercices pour faire un sas, pour dire, maintenant, là, je vais entrer dans la nature, et donc, peut-être le premier mot, c'est respect, parce qu'il y a des êtres qui travaillent là, qui font plein de choses super, et donc je suis bien content, parce que j'en profite, parce que faut se rappeler quand même que la nature nous nourrit. Si on détruit la nature, admettons qu'on vive tous comme des Américains et que dans un an la nature est morte, nous aussi on est morts. Parce que c'est elle qui nous nourrit. Faut être un peu débile quand même. Vous imaginez, si on mourait comme ça, on y aurait de quoi avoir la honte pendant quelques milliers d'années. Parce qu'en fait on serait mort, mais qu'avec notre corps physique, mais notre esprit lui serait pas mort. Donc on serait là-haut comme des imbéciles en disant mince, on a détruit notre planète, on aurait pu faire plein de choses super, et puis voilà, maintenant, c'est foutu quoi. Donc on entre dans la nature, donc respect, et donc on va pas chanter à tue-tête ou quoi que ce soit. On va faire attention aussi à nos émotions et à nos pensées, parce que les êtres de la nature, ils captent très bien les émotions et les pensées des humains. C'est comme une atmosphère psychique pour eux, dans laquelle ils vont tremper en quelque sorte. Et donc, faut faire attention à cette atmosphère psychique, c'est-à-dire attention à nos émotions. Donc ça peut être même avant d'aller dans la nature, de nous calmer. Et puis par rapport à nos pensées, là, c'est peut-être quand on arrive vraiment dans la nature, de plus penser à notre travail, à nos soucis, à nos problèmes relationnels, ou que sais-je. Bref, tout ce qui peut être négatif pour nous ou pénible pour nous, il faut laisser ça derrière nous quand on entre dans la nature. Donc ça peut nécessiter parfois un travail préalable. Et puis après, on peut comme ça entrer tranquille, c'est-à-dire on y va et on y entre avec l'état d'esprit « je viens là pour donner ». Parce que la nature, elle est quand même très, très attaquée. Donc elle a besoin de soutien aussi. Elle a besoin de sentir le soutien des humains. Parce que lorsque les êtres de la nature ressentent le soutien des humains, eh bien ça facilite leur tâche, ça leur donne la pêche, quoi. Imaginez, je sais pas, vous êtes en train de faire un travail difficile et puis tout le monde s'en fiche complètement. Bon, c'est même pas l'histoire d'avoir des récompenses ou quoi que ce soit, mais bon, tout le monde s'en fout. Il y aura des questions après, mais là, je continue sur mon... Non, vous faites de la gym, peut-être? Oui, ouais, c'est de la gym, bon, d'accord. Parce que la dame levait la main régulièrement, donc je me dis ça, peut-être que... Pas du tout. Bon, donc... Oui, donc quand on est dans la nature, on doit avoir un état d'esprit de don. Parce qu'on se dit, comme la nature, on lui en fait baver d'un autre côté, donc moi je veux plus lui en faire baver, mais au contraire, je veux lui donner de bonnes choses. Et donc si vous mettez dans l'état d'esprit que vous, comme je disais, vous faites un travail qui est difficile et dont tout le monde s'en fiche, au bout d'un moment, vous perdez le moral, quoi. Vous dites, bon, finalement, à quoi ça sert tout ça, et tout, et puis si tout le monde s'en fiche, alors, peut-être, je ferais mieux de faire autre chose. Bon, les petits êtres de la nature, eux, ils vont pas se dire, je vais faire autre chose, parce que ils savent pas faire autre chose que ce qu'ils font. Hein, ce sont comme des êtres spécialisés. Chacun est spécialisé à une tâche particulière, et il l'a fait toute sa vie. Qui parfois peut être très longue, beaucoup plus longue que celle d'un être humain, mais il fait toujours sa tâche. Et donc, bien sûr, s'il reçoit beaucoup d'émotions et de pensées négatives des êtres humains, eh bien, ça peut le décourager en quelque sorte, jusqu'à un point où il peut avoir envie, non pas d'arrêter son travail, mais d'aller voir plus loin, quoi, de changer. Et parfois, c'est carrément des groupes d'êtres de la nature qui vont voir ailleurs, quoi, c'est-à-dire qui s'éloignent, avec toutes sortes de conséquences dans la nature qui peuvent faire que des endroits meurent ou sont très détériorés, etc. parce qu'ils ont été abandonnés par les êtres de la nature parce qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Ils étaient trop pollués par les pensées et les émotions des gens. Donc une chose très simple pour les aider et les soutenir et qu'ils se sentent justement soutenus, eh bien, c'est d'aller dans la nature en essayant d'oublier tous les côtés de soi qui sont pas intéressants pour eux ou qui sont négatifs ou pénibles ou quoi. En plus, ça vous fera du bien. Vous serez beaucoup plus léger ou légère. Et puis, vous donnez au contraire votre enthousiasme, hein, vous donnez votre joie, vous donnez votre espérance. Et ça, ils vont les capter et ça va leur donner la pêche. Ça va les rendre enthousiastes. Et donc, ils vont beaucoup plus aimer faire leur travail. Donc ça, c'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire et c'est quelque chose qui est bien pour eux. Et ça, c'est une aide que vous pouvez apporter à la nature. Donc tout ça, en fait, découle de cette fameuse expérience que j'avais vécue en 1997, quand cette énergie puissante est descendue dans la nature pour la transformer. Donc j'y ai réfléchi un certain temps pour l'intégrer, pour comprendre ce que c'était, ce que ça voulait dire, etc. Et puis, en fait, j'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais apporter. Et pourquoi la nature se transformait, bien sûr. Donc la nature est en phase de transformation parce que soit elle se transforme, soit on la détruit. Parce que c'est sûr, là je fais une conférence, admettons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui vont se mettre à aider la nature, à faire ce qu'il faut et tout, ce sera bien. Mais on est bientôt 8 milliards sur la planète et combien de gens vont le faire? À moins que mon livre devienne un best-seller mondial, ce que je suis pas contre, mais bon, je suis réaliste aussi. Les gens sont très très matérialistes à notre époque et la nature, ils s'en fichent, quoi, en gros. Alors bien sûr, ils vont jamais vous dire qu'ils s'en fichent, mais souvent ils se sentiront très très coupables vis-à-vis de la nature, parce qu'ils savent que notre mode de vie l'a détruit, mais comme ils n'ont pas envie de changer notre mode de vie, hein, si vous regardez par exemple ce qu'ont dit les quatre derniers présidents américains, ils ont tous dit qu'il était hors de question qu'ils obligent leur peuple à faire des efforts de restriction par rapport à leur mode de vie, par rapport à la nature. Donc ils ne feront rien. Et on le voit. De voir comment ils fonctionnent, ça c'est sûr, ils n'ont jamais rien fait. Et seulement, les Européens les imitent. Alors, si les Américains font rien, les Européens les imitent. Alors certains font un petit peu quand même, ce qui est bien, et puis d'autres pas du tout, ou très peu. Et bref, c'est pas assez. Comme la majorité des biologistes l'ont dit, de toute façon, même si aujourd'hui, là, top chrono, à 16h, à 16h02, on se mettait tous à avoir un mode de vie parfaitement en accord avec la nature, il faudrait des milliers d'années à la nature pour se régénérer complètement. Des milliers d'années. Et je pense que c'est pas faux. Alors bien sûr, les scientifiques se disent, oui, mais de toute façon, si la nature est en danger, et puis même si elle devait mourir, ça serait pas avant longtemps, ça serait pas avant plusieurs siècles. Oui, surtout pas pendant que je suis incarné, faites pas ça. Et tout. Donc là, c'est un petit peu plus faux. Là, c'est un petit peu plus égoïste. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on peut pas vraiment sauver la nature. Comme ça, c'est-à-dire physiquement, je veux dire physiquement, matériellement, allez, on se met tous à avoir un mode de vie pro-nature et tout, on devient tous des survivalistes et puis en avant, c'est parti mon kiki. Eh bien, ça, c'est trop tard. Et même si on le fait dès maintenant, ça prendrait des milliers d'années et à belle lurette qu'on serait plus là de toute façon. Donc non, c'est pas ça qu'il faut faire. La seule chose qui est possible, c'est faire des choses spirituelles. Et les choses spirituelles, ça commence tout simplement, comme je le disais juste avant. C'est-à-dire aller dans la nature avec un état d'esprit, comme on le disait au commencement, c'est-à-dire d'ouvrier de Dame Natura. C'est-à-dire on se met à son service et on lui donne le meilleur de nous. Hein, c'est-à-dire le meilleur de nous, c'est-à-dire de l'esprit que je suis, en essayant de lui donner des bonnes pensées, des belles émotions, des belles choses qui viennent vraiment du meilleur de nous et qu'on a envie de donner à la nature parce qu'on sait que ça va l'aider. Et ça, c'est spirituel, puisque c'est l'esprit qui est en nous qui le fait. Donc, c'est pas compliqué. Tout le monde peut faire ça. Et ça, c'est ça que l'on doit faire à partir de maintenant. Enfin, une des choses, en tout cas, qu'on doit faire à partir de maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, on peut le faire en allant nous immerger en pleine nature, mais on peut le faire aussi n'importe où. Parce que nous sommes partie intégrante de la nature. Hein, comme je disais au début, nous sommes tous dans un corps physique qui a été donné par la nature. Donc, ce corps physique, il fait partie de la nature. Donc, en tant qu'esprit, nous sommes bien immergés dans la nature. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Et c'est pour ça qu'on dit bien qu'il y a quatre règnes dans la nature, hein, minéral, végétal, animal et humain. L'être humain fait partie aussi de la nature. Donc, partout où on est, si on a 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on peut se poser, puis penser à la nature et lui envoyer des bonnes ondes, entre guillemets, et des belles pensées, des belles émotions, etc. Et ça ne sera pas perdu. Ça sera déjà, ça te fait. Donc vous voyez, ça élargit le champ d'action possible parce que où qu'on soit, on peut penser à la nature et lui envoyer des belles choses, des belles pensées, des bonnes émotions. Et vous pouvez même faire, je sais pas, un dessin ou quelque chose pour la nature en pensant à elle, en pensant à sa guérison, en pensant à sa régénération. Et vous le faites chez vous, sur votre bureau, et c'est quand même pour la nature. Et ça circule dans la nature, c'est une bonne énergie qui circule en elle et qui lui fait du bien. Donc ça, on peut tous le faire et on peut le faire un peu partout. Ça n'empêche que vous pouvez faire aussi des exercices particuliers ou des méditations, là, immergés en pleine nature, pour des raisons particulières, pour entrer en relation avec certains êtres de la nature, etc. Et ça aussi, bien sûr, c'est efficace et même peut-être plus encore. Et ça, pour ça, vous avez des exercices, des méditations exprès pour le faire et qui sont accessibles à tous. À partir du moment où vous avez envie de méditer ou si vous avez déjà fait ça un petit peu, eh bien, vous saurez le faire avec un peu d'entraînement. On donne de soi, on se sent digne, on est plus coupable de maltraiter la nature. Et donc, ça, c'est une bonne chose. En plus, c'est ce qui est le plus efficient pour aider la nature. Ça, je le dis parce que je l'ai rencontré. J'ai rencontré Dame Natura et je lui ai demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et « Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi en tant qu'humain ?» Et donc, c'est ça qui est ressorti. C'est-à-dire d'une part que l'être humain prenne conscience qu'il fait partie de la nature, donc c'est plus simple qu'on ne croit, et qu'il arrête surtout de se dissocier de la nature, puisque aussi bien les scientifiques que certains philosophes nous ont dit, il y a l'être humain et puis il y a notre environnement, c'est-à-dire la nature. Eh bien c'est faux, c'est un gros mensonge, ça crée une division et ça crée un état d'esprit qui est celui qui amène à cette destruction. Parce que ce qui n'est pas moi, c'est soit mon ami, soit mon ennemi. Donc ce qui n'est pas moi, si je ne le connais pas, c'est forcément mon ennemi. D'accord ? Hein, on fait ça même avec les êtres humains. Un être humain qu'on ne connaît pas, on va pas lui sauter au cou tout de suite ou lui raconter notre vie. Bon, c'est un peu normal aussi. Ça se crée. Il faut que ce soit mutuel aussi. Dans l'amitié, par exemple, il faut faire des efforts chacun, etc. Eh bien, avec la nature, c'est un peu pareil. Au départ, on connaît pas la nature. Bon, on la voit en photo, en film, on la voit comme ça. Bon, on y va de temps en temps pour se promener et tout, mais on la connaît pas vraiment. Et bon, ben, il y a des bêtes dans la nature, il y a plein de choses, on ne sait pas trop ce que c'est. En plus, il y a des virus dans la nature, maintenant c'est dangereux. Ah là là! Et le Covid-19, est-ce qu'il y a au moins? Bah oui, bien sûr, comme tous les autres. Ah, moi j'y vais plus. D'ailleurs, on l'avait dit, hein, le gouvernement et tout, ils avaient dit qu'il fallait plus aller dans les forêts, sur les plages et soins de soins. C'est scandaleux. Dire une chose pareille, c'est scandaleux parce que ça veut dire la nature est votre ennemi. Alors que c'est faux. Hein, le meilleur moyen de combattre les virus, en dehors du fait d'avoir un bon système immunitaire bien sûr, c'est d'aller dehors, c'est d'aller dans la nature. C'est comme ça on se confronte au virus et notre système immunitaire, comme c'est pas un imbécile, contrairement à ce que les scientifiques croient, eh bien notre système immunitaire, lui, il va identifier le virus et puis il va savoir se conformer à lui et il va savoir le combattre. Et après, le virus pourra se pointer autant qu'il veut, votre système immunitaire, il lui dira « casse-toi, tu pues », il lui collera deux baffes, il n'entrera jamais en vous. Alors que si vous restez planqué chez vous, sous votre lit, avec un masque, un casque et tout, avec un grand écriteau à la porte, « Covid-19, interdiction d'entrée ». Donc le problème, c'est qu'en restant chez vous, eh bien, vous ne vous confrontez pas au virus et donc votre système immunitaire n'a pas d'occasion de les identifier et de s'armer contre. Parce qu'un système immunitaire, c'est très simple, il va se configurer, se former, se formater lui-même par rapport à tous les virus qu'il rencontre, de façon à ce qu'à chaque fois, il puisse faire ce qu'il faut pour les empêcher d'entrer en vous. Mais s'il ne les rencontre jamais, ben, il les connaît pas. Et donc, la première fois qu'il en rencontrera, si c'est un hargneux, bah, il sera peut-être à voir parce qu'il le connaît pas et qu'il n'a pas pu s'y préparer. Alors, il faut surtout pas rester planqué chez soi. Faut au contraire sortir. Et c'est le fait d'aller dehors, dans la nature, etc., qui fait qu'on renforce notre système immunitaire. Donc, comme quoi, la nature n'est pas notre ennemi. Au contraire, elle est notre amie. Parce qu'elle va nous aider à renforcer notre système immunitaire et que notre système immunitaire sache identifier les virus. Enfin, les mauvais, parce qu'il y en a plein qui sont bons aussi. Il y a plein de virus, plein de bactéries, partout, il y en a des millions et des millions, on en respire tout le temps. Mais il y en a une partie qui sont pathogènes, une partie qui sont méchants, mauvais. Donc notre système immunitaire, lui, il est capable d'identifier les bons et les méchants. Donc il faut lui donner l'occasion de se développer, de se renforcer, etc. Et le meilleur moyen, c'est confrontation avec la nature. Donc là, la nature, en fait, elle n'est pas notre ennemi, mais au contraire, elle est notre amie. Mais comme on la connaît pas, et si on se contente de s'informer avec les médias de masse, eh bien, on se fait avoir. Parce que ils ne nous lavent pas la cervelle, non, ils nous salissent la cervelle. Les médias de masse, je connais, j'ai été journaliste dans les médias de masse, donc je connais comment ça fonctionne. Et vous n'obtiendrez jamais la vérité avec les médias de masse. Hein, c'est-à-dire les télés d'État, les radios d'État, les journaux quotidiens d'information, les hebdos d'actualité, les sites porno, j'allais dire, les sites de antisociaux, voilà, je cherchais le mot. Et puis bien sûr, tous les sites internet qui leur sont liés, tout ça, ça obéit à l'État. Et il y a même dans chaque pays un comité qui vérifie si dans le pays ces médias de masse font bien leur boulot, quoi. Donc moi, à l'époque où j'étais journaliste, j'avais eu la chance d'avoir un chef d'agence qui était bon, qui avait juste 10 ans de plus que moi, qui était très sympa, qui m'expliquait plein de choses, de comment ça fonctionnait. Et moi-même, j'ai été confronté à certaines choses, des articles que je voulais faire et que j'ai pas pu faire, parce que j'avais pas le droit, parce que c'était des vérités qui devaient pas sortir. Donc ça marche comme ça. Dans les médias de masse, vous aurez jamais la vérité, donc laissez-les tomber une bonne fois et passez à autre chose. qu'on croit qu'on a un système immunitaire minable qui n'est pas capable de, comment dire, dealer avec les virus, alors qu'en fait, c'est son boulot. Donc, même si des scientifiques créaient le meilleur vaccin du monde, ça ne servirait strictement à rien, parce que c'est prendre votre système immunitaire comme un débile. Le système immunitaire, il appartient à notre corps physique, il appartient à la nature, c'est la nature qui nous l'a donné. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, aller en nature aide à renforcer notre système immunitaire. Parce que tout ça, c'est pareil, tout ça vient de la nature. Donc aujourd'hui, c'est la science médicale contre la nature. Donc on nous invente toutes sortes de médocs chimiques qui sont tous plus nazes les uns que les autres et tous plus dangereux les uns que les autres, alors qu'on a la nature qui est là. Mais la nature n'est pas notre ennemi, elle est notre amie. Et dans la nature, il y a toutes les plantes qu'il faut pour guérir toutes les maladies, absolument tout. Donc si on était l'ami de la nature vraiment au lieu d'être son ennemi, eh bien on chercherait des moyens de se guérir avec la nature, par exemple avec les plantes. Il y a mille et un moyens qui ont été mis au point depuis quelques décennies. Bien sûr avec la phytothérapie, mais la gémothérapie, la phytospagérie. Il y a plein de méthodes aujourd'hui qui sont toutes meilleures les unes que les autres, et grâce à des gens qui, eux, considèrent la nature comme étant leur ami. Et puis qui travaillent avec beaucoup de respect, beaucoup de profondeur et tout, pour tirer la quintessence des plantes et qui peuvent nous guérir. Et nous croyons que des médocs chimiques peuvent nous guérir, mais j'avoue, je comprends pas ça. Enfin, faut être très matérialiste pour croire ça. Parce qu'un médoc chimique, déjà, il a plein de contre-indications. Et après, c'est même pas la limite qui soit prévue pour vous guérir. Il peut, atténuer les problèmes pendant quelques temps, mais après, il vous surcharge de plein d'autres problèmes. Donc, il y a rien à gagner avec ça, quoi. C'est très dangereux. Donc, c'est bien dit que y a je sais pas combien de milliers de gens, rien qu'en France, qui meurent chaque année à cause des médocs chimiques. Alors qu'en fait, ça devrait jamais arriver. Si on écoutait la nature et tous les bienfaits qu'elle a pour nous, et si on était son ami, on lui ferait confiance et elle, quand on utilise une plante, il n'y a pas de contre-indication. Je veux dire, elle nous veut pas du mal, elle ne veut que du bien. Donc, si on a la bonne plante pour la bonne maladie, elle nous guérit, puis il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de problème après, quoi. Donc tout ça parce que, dès le départ, on nous a éduqués pour nous dire, il y a l'humain et il y a l'environnement. C'est-à-dire, il y a l'humain et il y a la nature. Ça, c'est un gros mensonge de base qu'il faut exploser. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'on est tellement conditionné par ça que, à la base, même si on s'intéresse à la nature et tout, on va quand même parfois se rendre compte qu'on a des réactions, des fonctionnements qui disent division. Et bien, faut vraiment exploser ça. Et se rendre compte que, on fait vraiment partie de la nature, ne serait-ce que par notre corps physique. Et comme je vous disais, là, c'est assez éclairant quand on pense au système immunitaire dont tout le monde parle depuis un an et demi, sans trop savoir ce que c'est la plupart du temps. Et là, on se dit, notre corps physique vient de la nature, notre système immunitaire aussi. Donc, si on fait confiance à la nature, eh bien, on comprend facilement que le meilleur moyen de renforcer notre système immunitaire, c'est d'aller dans la nature. C'est juste du bon sens, en fait. Il n'y a pas besoin d'état scientifique pour comprendre ça. Malheureusement, on nous dit le contraire. Et pourquoi on nous dit le contraire? Tous les gens qui nous disent le contraire, eh bien, c'est parce que ces gens-là pensent que la nature est leur ennemi. Et la science médicale actuelle le pense dur comme fer, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des médocs chimiques. C'est comme ça qu'ils veulent faire du fric, et donc forcément, ils se mettent contre la nature à ce moment-là. Et donc, ils vont jusqu'à cacher que certaines plantes peuvent nous guérir, etc. On a vu avec l'Artemisia annua qui peut guérir plein de choses. Elle peut guérir les virus, bien sûr. Elle peut guérir des cancers aussi. Elle peut guérir le paludisme. Elle peut guérir la maladie de Lyme. Mais il faut surtout pas qu'elle soit connue. Alors qu'en fait, vous pouvez même la faire pousser dans votre jardin. C'est très très bon, très très puissant. Parce que ça vient de la déesse Artemis. Il y a toute une famille comme ça de plantes Artemisia, si je puis dire, qui se reconnaissent parce qu'elles sont toutes très puissantes. Bon voilà, c'est un moyen d'aborder le lien entre l'être humain et la nature et qui montre justement qu'elle est vraiment notre amie, quoi. Il faut pas écouter des gens sous prétexte qu'ils ont plein de diplômes et tout, mais qu'ils ont peut-être rien compris au film. Moi, je signale quand même que les scientifiques ne connaissent pas comment fonctionne l'être humain. Déjà, c'est un des gros problèmes. Si vous voulez le connaître, j'ai écrit un livre exprès pour ça, parce que je me disais non, c'est pas possible. En tout cas, des gens, tout le monde sont à genoux devant eux et tout, et ils connaissent rien au fonctionnement de l'être humain. C'est scandaleux, quoi. Ça va pas. Moi, j'ai mon livre qui s'appelle Les mystères de la nature humaine, qui explique vraiment le fonctionnement de l'être humain. Et après, vous pourrez le comparer à tout ce que disent les scientifiques, et à chaque fois, vous serez mort de rire. parce qu'ils connaissent rien au fonctionnement de l'être humain. Et quand on sait que ce sont des médecins ou autres, par exemple, eh ben, ça fout les jetons. De se dire, je vais remettre mon petit corps entre les mains de ces gens-là, et en fait, ils savent pas comment fonctionne l'être humain. Ils vont juste être capables de me filer des médocs chimiques, et point, et après, ils vont me dire, c'est bon, ça va se guérir tout seul. Oui, c'est ça, mon coco, à cause toujours. Et puis, la deuxième chose, les scientifiques ne connaissent pas les mondes invisibles non plus. Les différents mondes invisibles là-haut, les différents mondes invisibles de la nature, ils ne les connaissent pas. Et donc, ça, c'est dangereux aussi, quoi. Parce que la nature, c'est vrai, comme je vous en parlais, bah, c'est notre ami avec toutes ces plantes et tout. Mais toutes ces plantes-là, elles poussent pas comme ça parce que c'est la mode, ou parce que c'est une espèce de mécanique, ou je sais pas trop laquelle. Non, ce sont des êtres, en fait. C'est surtout ça qui donne de la valeur aux plantes, c'est parce que ce sont des êtres qui s'en occupent. Bah, comme je disais, pour la famille des plantes Artemisia, bah, c'est réellement la déesse Artemis qui les a créées à la base. Donc c'est une déesse qui a créé ces plantes. Donc c'est pas n'importe quoi. Et depuis, bah, depuis des milliers d'années, ce sont des petits êtres de la nature qui s'en occupent, qui ont cette responsabilité-là. Mais voilà, donc ça vient... bah, toutes les plantes viennent d'entités célestes, bien souvent, et qui ont été confiées après à des êtres de la nature et qui s'en occupent, hein, pour les faire pousser et tout, et puis qui s'occupent des saisons et tout. Et donc, c'est un formidable balai de tous ces êtres, en fait, qui nous apportent plein de belles choses. Donc, bien sûr, c'est très beau, la nature, avec les plantes, les fleurs, les arbres et tout, mais... il y a aussi plein de choses, plein de forces qui peuvent être utilisées, bah, pour se guérir, bien sûr. Mais il y a même des gens qui sont spécialistes de ça et qui se nourrissent aussi, rien que des plantes. Bon, moi, j'avoue, je suis admiratif de ça. Je sais pas comment ils font. Moi, c'est sûr, si on me lâche dans la forêt, moi, je crève de faim au bout de je sais pas combien de temps. Mais je saurais pas me nourrir des plantes et tout là. Non, j'en suis pas là, loin de là. Mais il y a des gens qui les connaissent vraiment très bien et qui peuvent même quitter. Il y a des gens qui ont quitté la civilisation et qui vivent en pleine nature et qui se nourrissent des plantes. Bon, bah, chapeau, mais c'est vrai que c'est possible. Donc ça, c'est à mettre à l'avantage de notre amie la nature, qui a plein de ressources et qui est très créatrice. Dame Natura, donc on peut appeler aussi Mère Nature, elle est très créatrice, elle adore ça. Donc en fait... quand je parlais depuis le début, donc de bah faire les choses pour aider la nature, donc c'est dans un état d'esprit particulier, parce que il y a un peu comme deux choses qui sont possibles. Il y a une chose dont je ne parlerai pas, qui est participer à la rédemption de la nature. Ça, j'en ai parlé dans mon livre Natura, ou Les secrets du livre de la nature. Ça, c'est quelque chose qui va se faire sur une très longue durée, et c'est une des missions de l'être humain, de participer à sa rédemption. Et puis l'autre chose, donc là c'est plus actuel, plus sur une courte période, participer à la transformation actuelle de la nature. Donc là la nature est en train de se transformer depuis 1997 dans l'invisible, hein, et pendant encore au moins 10-15 ans. Et donc c'est participer à cette collaboration. C'est plutôt ça là dont je parle ce soir. Et donc il y a des choses qui peuvent être faites bien sûr très simples, comme j'expliquais tout à l'heure. Ou alors, on peut aller plus loin, et donc, comme je l'ai sous-entendu, on peut aussi s'immerger dans la nature et faire donc certains exercices méditatifs qui ont pour but donc de l'aider dans son travail. Donc les exercices méditatifs, je les ai mis là, comme je disais, vous pouvez donc les pratiquer. C'est mieux de les pratiquer à plusieurs, parce que, eh bien, ça donne plus de force. Si on est 4 ou 5, par exemple, on va rayonner plus de force que si on est seul. Et si on est 256 428 622, c'est sûr, là vous allez transformer complètement la nature. Même déjà à 10-15 personnes, ça ferait des choses que vous pouvez même pas imaginer. Donc c'est pour ça vaut le coup de le faire à plusieurs. À partir de 3 ou 4 déjà, c'est bien, quoi. Puis ça peut commencer même à 2, mais vous pouvez le faire tout seul aussi. Et puis ça peut être un jour tout seul, et puis une autre fois 3 ou 4, selon comment c'est possible pour vous. Mais disons que c'est quelque chose qui est différent que le fait de s'atteler à essayer de rédempter la nature. C'est autre chose. C'est plus là, contribuer à sa transformation actuelle, donc ce qui se passe dans l'invisible actuellement. Vous pouvez donc soutenir ce travail-là, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert au fait que vous travaillez à ce qu'il y ait une nouvelle nature bientôt. Bientôt, il y aura une nouvelle nature, il y aura un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça va être transformé. Et on aura donc par la suite une nouvelle société humaine. Mais ça passe d'abord par la nature, parce que si on veut créer vraiment un nouveau monde, et on le fera, eh bien, il nous faut une nature adéquate pour ça. On ne peut pas le faire avec la nature telle qu'elle est dans l'état dans lequel elle est actuellement. Elle est trop polluée. Comme disait mon boss, on ne fait pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Donc, il faut changer ça. Et donc, c'est pour ça que la nature est en cours de transformation, pour justement que dans les années 30-40, on ait une nature complètement renouvelée. Et ça permettra donc d'avoir un nouveau monde aussi, et avec des gens qui auront un nouvel état d'esprit, qui fonctionneront différemment. C'est quasiment impossible à imaginer. Donc c'est pour ça que je dirais, par exemple, quand les scientifiques disent que voilà, tout est foutu, c'est la sixième extinction, l'extinction de la race humaine. D'ailleurs, regardez, chaque année, il y a des dizaines de milliers d'espèces qui meurent. C'est vrai, c'est une vraie hécatombe, c'est une véritable catastrophe, c'est une véritable horreur. Mais en fait, on ne peut pas imaginer ce que ça va devenir dans quelques années. Donc, dans quelques années, ça va être complètement différent. Mais il nous faut jouer notre rôle. C'est-à-dire, il nous faut prendre le train en marche, parce qu'il est en marche déjà depuis 1997. Et puis, ça a même commencé d'autres préparations avant ça, quelques décennies avant. Donc, il nous faut prendre le train en marche et y participer. Parce que ça rendra encore plus possible le fait que ça existe très bientôt. Et ça existera vraiment. Et la Terre, donc la nature, va complètement se transformer, se régénérer, se rebooter complètement. Et pour ce que j'ai pu en voir, moi j'ai vu par exemple, avant la fin des années 30, j'ai eu des visions d'endroits zéro pollution. Un air impossible à imaginer aujourd'hui. Parce que la Terre entière est polluée aujourd'hui, même dans les endroits les plus merveilleux, les plus fantastiques, les moins habités, les plus hautes montagnes et tout ce que vous voulez, c'est quand même pollué. Et si vous faites des prélèvements d'air n'importe où, eh bien vous aurez dedans de la radioactivité, à cause des milliers et des milliers de bombes atomiques que tous ces imbéciles ont fait sauter, hein, pour rien, juste pour la forme, juste pour gagner des paquets de fric, avoir des pouvoirs et tout. L'être humain a fait vraiment de grosses horreurs pendant tout le XXe siècle. Donc bien sûr, je sais bien que c'est pas vous ni moi qui avons fait ça, mais bon, on hérite de ça, donc on peut se plaindre et jouer les victimes, ou on peut se dire, bah non, on n'est pas des victimes, on fait partie de l'humanité, l'humanité a fait des bêtises, et ben nous on veut pas être parmi les humains qui font des bêtises, mais on veut être parmi les humains qui vont apporter la guérison, et qui vont apporter le futur, qui vont apporter un nouveau monde. Donc si on se place dans cet état d'esprit-là, eh bien, on peut le faire et apporter justement ce nouveau monde. Et c'est possible, et moi je vous garantis que, eh bien, après, on aura une Terre totalement pure. Ce qui est complètement inimaginable aujourd'hui. Et ne dites pas ça aux scientifiques parce qu'ils vont être morts de rire et se foutent de votre figure. Parce que pour eux, tout est fini. Tout ce qu'ils souhaitent et tout ce qu'ils rêvent, c'est que ça se passe après leur mort, après le déluge. Eh bien, laissons-les dans leurs histoires. Ne nous occupons pas d'eux et nous faisons notre boulot si c'est notre choix. Et donnons-nous-y à fond. Et vous verrez, ça ne sera pas pour rien. Donc tout ça, bien sûr, amène à faire un choix. Bon. Le choix, on le voit bien de plus en plus clairement. Moi, ça fait 20 ou 25 ans que je dis aux gens, le 21e siècle, c'est le siècle du choix qui va déterminer un avenir différent et qui sera différent selon le choix que les gens auront fait. Et donc, au départ, tout le monde pensait que je fumais quelque chose de sympa. Tout le monde se foutait de moi, n'y croyait pas. Et puis quand je disais aux gens, mais renforcez-vous, parce que l'être humain va vivre une période très très difficile, et donc il faut faire non seulement ce choix, mais aussi se renforcer. Les gens disaient, ouais, bien sûr, on verra ça demain. Pour l'instant, il n'y a rien qui presse, quoi. Et puis depuis l'an dernier, tout à coup, on a vu débarquer ce mal dont je parlais depuis très longtemps, qui est arrivé, parce que comme vous l'avez compris, je pense que le Covid-19, c'est juste une façade, hein, c'est quelque chose pour cacher un nouveau mode de vie. Moi, quand je dis qu'il faut un nouveau mode de vie, un mode de vie héroïque et tout, nos ennemis, eux, ils ont mis en place. Eux, c'est pas un rêve, hein, c'est pas juste dans leur tête, ils ont mis en place leur nouveau mode de vie. Un mode de vie destruction, ça s'appelle. Un chaos social, ça s'appelle. Et ils l'ont mis en place depuis l'an dernier. Hein, et il suffit d'avoir les yeux grands ouverts pour s'en rendre compte. Et c'est pour ça que ça va pas s'arrêter comme ça. Parce que malheureusement, la majorité des gens se sont laissés faire, se sont endormis. Et pour eux, c'est génial. parce que plus on reste endormi et plus ils ressentent leur pouvoir. Donc, il va falloir qu'on change notre mode de vie. Ça finira qu'il y aura vraiment deux civilisations qui vont complètement se séparer. Tous les guignols qui vont rester avec tout leur cirque et tout. Et puis les autres personnes qui, eux, vont vivre un mode de vie complètement différent, en accord avec la nature, avec le monde spirituel, etc., qui donnera la nouvelle civilisation. Ça va se finir comme ça, ça ne peut pas se finir autrement. Cette séparation, elle est déjà en cours depuis l'an dernier. Voilà, il faut juste faire son choix et pas se laisser avoir, quoi. Et puis, bah, s'il y a des gens que vous pouvez réveiller, bah, réveillez-les. Mais c'est pas si simple. Il y a même des gens qui vous disent « Oh ouais, j'ai bien compris », mais qui font rien quand même, quoi. Enfin, ils font semblant. Ils font semblant d'avoir compris, mais en fait, en profondeur, ils n'ont rien compris, quoi. Donc on peut dire qu'actuellement, on vit comme une sorte de guerre entre les forces de vie et les forces de mort. Donc les forces de mort, elles sont dans notre corps physique, et les forces de vie, elles sont dans notre corps éthérique. Donc selon ce que nous choisissons, eh bien, ça fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'on a des forces de mort très puissantes, qui donc font tout pour nous fragiliser, nous affaiblir. Donc là, on a vu avec l'histoire du Covid-19, tout a été fait, toutes les restrictions sanitaires ont été faites pour démolir les relations humaines. Parce que si on démolit les relations, si les gens n'ont plus de relations, ben, ça les affaiblit. Et si ça les affaiblit, ben, on a le pouvoir sur eux beaucoup plus facilement. Hein, c'est une stratégie militaire, en fait, qui a été mise en place, ça fait longtemps. Moi, j'ai vu un rapport de 2010 qui expliquait tout ça. En 2010, c'était déjà prévu. Donc c'est quelque chose qui est très très bien organisé. Bon, pour que tous les pays soient d'accord et fonctionnent tous de la même manière, je peux vous dire, ils ont bossé depuis des années et des années. Et nous, c'est tranquille, pépère, mémère, dans notre petit coin, à rêver que les choses allaient se passer tout seul et tout, youplaï, youplaïa. Maintenant, faut qu'on se réveille, parce que là, ils ont une sacrée longueur d'avance, quoi. Et le vaccin, lui, il vient pas de la nature. Parce que ces virus-là, qui sont létales, ils sont non vivants. Hein, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ils disent ils sont non vivants. Hein, parce que c'est pas prouvé que c'est vivant. C'est pas possible que ce soit vivant. Donc en fait, ce sont des forces de mort, donc liées au corps physique. Tout ce qui est mort est lié au corps physique, puisque l'avenir du corps physique, c'est la tombe de toute façon. Donc le corps éthérique, lui, c'est un corps de vie, et qui après votre mort retourne dans le monde spirituel. Donc c'est vraiment cette guerre entre les deux. Et au niveau de la santé, bah c'est pareil, c'est corps physique avec les produits chimiques d'un côté, ou corps éthérique avec les plantes de l'autre côté. C'est notre choix, quoi. Et certains disent que si on se débrouillait très bien, eh bien la médecine chimique s'effondrerait. Par exemple, il y a des médicaments qui peuvent guérir des virus, sans avoir besoin de vaccins ou de quoi que ce soit. Et si c'était connu suffisamment, eh bien tous les vaccineux, là, toute l'église de vaccinologie, ils s'effondreraient. Parce qu'on s'apercevrait que ça sert à rien. Mais bien sûr, c'est planqué, quoi. Et donc tout ça ramène à quoi ? Eh bien, ramène au libre arbitre de l'être humain. Il faut qu'on développe notre libre arbitre, parce que grâce à notre libre arbitre, on peut prendre des décisions par soi-même. Et là, actuellement, mais c'est hyper important d'être capable de décider par soi-même. Parce qu'on a un choix à faire par rapport à la nature. Allons-nous nous ranger à ses côtés et allons-nous l'aider à vivre sa transformation ? Mais on a aussi le même choix en tant qu'être humain. Comme je l'expliquais dans Kayadov 3, hein, Kayadov, la super-héroïne qui vient du futur, ses amis lui ont demandé « Mais avec tout ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais elle disait « Il y a trois solutions à mettre en pratique maintenant, pas demain, maintenant. » Il y a d'une part, participer à la transformation de la nature. Deuxième chose, participer à la transformation de l'être humain. Et ce deuxième aspect-là est développé dans Kayadov 3. Et la troisième chose, c'est combattre le mal, qui implique d'abord, en priorité, de combattre ses peurs. Et ça, c'est dans Kayadov 3 aussi. Il y a un exercice pour vaincre la peur, et l'exercice aussi pour combattre le mal, vraiment, savoir ce que c'est. Donc voilà, c'est ça que nous avons à faire. Et ça, on peut le faire que si on développe notre libre arbitre, parce que c'est comme ça qu'on va faire nos choix, et que nos vrais choix, on va les agir. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est comme notre test, quoi. On a un méga test, et donc il faut qu'on fasse notre choix, mais il ne faut pas que ça reste juste dans notre tête, il faut qu'on les incarne, quoi, qu'on les vive, nos tests. Et si on les vit, eh bien, on va créer ensuite un nouveau monde, et puis ce vieux monde matérialiste, ben, il mourra, il disparaîtra, quoi. Peut-être avec les aficionados avec, j'en sais rien. En tout cas, le choix, il est maintenant, quoi. Là, depuis l'an dernier, on voit bien qu'il faut le faire maintenant. Parce qu'après, ce sera trop tard. Plus ça va aller, plus nos ennemis, eux, vont créer leur propre monde. Et leur propre monde, il est inhumain. Et nous, on veut un nouveau monde. Donc, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va créer notre nouveau monde ou pas? Eh bien, oui, c'est possible. Et c'est même fortement conseillé, vu tout ce qui se passe. Il va arriver un jour, de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Ça sera ça ou claquer, quoi. Donc, nous devons créer notre nouveau monde. Si nous le voulons, en tout cas, c'est le moment de s'y mettre. Et donc, pour ça, c'est s'allier à la nature, vivre notre propre transformation et combattre le mal. Et si on le fait, eh bien, on sortira victorieux. Là, de toute façon, c'est dans les années 20 qu'on fait le choix, parce que c'est là que les deux mondes vont se créer. Et après, les années 30, c'est la bataille finale, et après, tout ça sera fini, et on passe à autre chose. Donc, c'est bientôt, c'est demain. On a encore le temps de le faire, mais il faut s'y mettre, quoi. Et si on le fait, bien, après, on sera des êtres humains dignes de ce nom, vivant dans une belle nature, et on aura pu repousser le mal une fois de plus. Donc, on aura gagné. Et donc, pour devenir des ouvriers de Dame Natura, donc je dirais qu'il y a deux aspects. Hein, donc, le premier, c'est une purification. Donc, on a une purification à faire sur nous-mêmes, à différents niveaux de notre être. Hein, ça rejoint ce que je disais au début, ben, on ne peut pas aller dans la nature comme ça. Hein, alors, on y va avec toutes nos, toutes nos casseroles et tout. Il faut se purifier avant. Donc ça peut être physiquement bien sûr, mais c'est surtout aussi énergétiquement et puis au niveau de nos émotions, de nos sentiments et de nos pensées, pour être dans le meilleur de soi, être dans la plus grande pureté possible. Donc bien sûr être justement dans des forces de vie. Donc ça implique différents domaines, parce qu'au niveau physique, ça peut impliquer bah, déjà de manger différemment, de manger bio par exemple, hein, pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Au niveau énergétique, eh bien, ça peut impliquer aussi toutes sortes de choses, toutes sortes de comportements qui peuvent aller simplement à faire un sport particulier ou quelque chose qui nous permet de faire circuler notre énergie de manière correcte. Donc, au niveau de nos émotions, de nos sentiments, bien, on l'a aperçu tout à l'heure aussi, c'est faire le calme dans nos sentiments et nos émotions, pour pouvoir donner à la nature de belles émotions. Donc essayer d'élever le niveau de nos émotions et de nos sentiments pour aller vers quelque chose de plus noble, plus chevaleresque. Et puis au niveau de notre pensée, bien sûr, c'est avoir des pensées qui soient belles pour la nature. Donc on peut imaginer des pensées de guérison, des pensées de rayonnement, des pensées d'amour, des pensées où justement on imagine que la nature... Eh bien, on lui donne de belles forces, on lui donne ce qui est le plus beau de nous. Donc, on se met dans notre cœur, on essaie d'ouvrir notre cœur et de lui donner le meilleur de nous à ce moment-là. Et donc, quand on se met dans cet état d'esprit-là, enfin, quand on fait tout ce travail-là, donc, on peut dire qu'on a réussi à se purifier et donc qu'on peut donner ainsi à la nature bah, le meilleur de nous à ce moment-là. Et puis, la deuxième chose, bien sûr, bah, ça, c'est ce que j'appelle le don. Ou le don du bien, puisqu'en fait, quand on est dans cet état d'être, hein, grâce à la purification, en fait, comme je disais au tout début, il suffit quelque part d'ouvrir les vannes et puis de donner son bien, d'avoir des belles pensées pour la nature, et puis déjà, c'est bien, déjà, c'est réussi. Mais on peut aussi aller plus loin et donc pratiquer certaines méditations, certains exercices qui vont avoir plus de profondeur, qui vont toucher des choses plus importantes au sein de la nature et donc la soutenir dans son travail de transformation. Donc ça, c'est les exercices que j'ai mis dans le livre. Donc à ce moment-là, vous arrivez à quelque chose bah, qu'on peut appeler devenir ouvrier de Dame Natura. Puisqu'en fait, vous œuvrez au bien à ses côtés pour l'aider dans son travail. Donc moi je trouve ça sympa de faire ça. Voilà. Retenez bien qu'en fait tout dépend des choix que vous faites. si vous faites le choix du bien, le choix d'être vous-même, et que vous savez que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y en a plein d'autres qui sont comme vous, et puis que de temps en temps, bah, on se réunit comme ça, avec d'autres gens qui pensent la même chose, et qu'on peut se renforcer les uns les autres, que ça fait du bien aussi, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on est minoritaire, c'est sûr, mais c'est pas grave. Le bien est souvent minoritaire, hein, mais il finit toujours par gagner. Le bien, lui, il gagne toujours. Mais pour le mal, ça se termine toujours mal. Retenez bien ça. Et puis voilà, allez de l'avant et gardez l'espérance. Merci.